Pour ceux qui étaient présents le mois passé, nous avions ensemble abordé un thème et nous avions, le jour de la Pentecôte, nous avions parlé des deux mains de Dieu, en parlant de sa parole et de son esprit. Et nous avions ensemble dit que, effectivement, Dieu réalise dans le monde ses œuvres par sa parole qu'il nous a donnée, qu'il nous donne, qu'il nous répète sans cesse, et par son esprit. Et c'est des choses qu'on voit du début de la Bible jusqu'à la fin, puisque dès la création, on nous dit que l'esprit planait au-dessus des eaux et Dieu dit. Et tout un ensemble de reprises, comme ça dans les Écritures, on voit que Dieu agit toujours avec son esprit et sa parole. Ils ne s'opposent jamais, ils ne vont jamais l'un contre l'autre, ils ne sont jamais séparés, ce sont deux alliés inséparables qui travaillent toujours ensemble. Et malheureusement, dans notre foi, dans nos églises, nous avons tendance à vouloir nous réclamer toujours plus de l'un ou de l'autre. Hein, on voudrait être plus connu comme un homme de la parole plutôt qu'être connu comme un homme de l'esprit ou le contraire. On a des églises dans lesquelles, non, nous sommes des gens de l'esprit. La parole, nous, c'est l'esprit. Et d'autres églises, nous, c'est la parole. Ah, nous, on respecte la parole, et bon, l'esprit, on verra, mais la parole. Et voilà ce qui amène des problèmes dans notre foi, c'est que nous voulons installer un déséquilibre dans des choses que Dieu a unies depuis la création, dans des choses qui sont faites pour être ensemble, nous voulons les séparer. Et donc, si nous voulons avoir une foi qui correspond à la volonté de Dieu, nous devons garder une bonne relation avec ces deux mains de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans le même sens et réfléchir à la question: quelle attitude pour recevoir les messages de Dieu et comprendre ses œuvres? Sous-entendu, quelle attitude devons-nous avoir pour recevoir les messages de Dieu et pour comprendre ses œuvres? Et nous allons lire un texte dans Matthieu chapitre 22, versets 23 à 33. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, en chapitre 22, versets 23 à 33. Voici ce qui est écrit. « Ce même jour, des Sadducéens vinrent le trouver, Jésus. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. Ils lui posèrent la question suivante. « Maître, Moïse a donné cet ordre. Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère devra épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait parmi nous sept frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans avoir de descendant. Il a donc laissé sa veuve à son frère. Il est arrivé la même chose au deuxième frère, puis au troisième, et ainsi de suite jusqu'au septième. En fin de compte, la femme est décédée, elle aussi. À la résurrection, duquel de ces sept frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eu pour épouse. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus, ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Les foules qui entendaient ces réponses étaient profondément impressionnées par son enseignement. Jusque-là, la parole de Dieu. Amen. Ce texte que nous voulons de lire, si vous avez la version du semeur, vous vous rendrez compte que ça fait partie de ce qu'on appelle les controverses. Les controverses, ce sont les moments, les débats, ou les moments où des groupes religieux s'approchaient de Jésus pour lui poser des questions ou pour le tester sur sa connaissance de la Bible. C'est arrivé à maintes et maintes reprises des épisodes comme ceux-là, de controverses, de débats, où des personnes s'approchaient de Jésus, soit pour lui poser une question pour en connaître plus sur Dieu, sur la Bible, ou pour lui poser une question pour voir comment il allait réagir, pour voir ce qu'il allait dire, hein, une sorte de piège. Et des controverses, il y en a eu beaucoup dans la Bible. Il y a eu la controverse sur le divorce, hein, quand les disciples ont essayé de tendre un piège à Jésus. La controverse sur l'impôt dû à César. Hein, Seigneur, devons-nous payer l'impôt à César? C'est des questions difficiles. On va voir ce qu'il va répondre. Est-ce qu'il va réussir à trouver le truc? La controverse sur l'identité du Messie. Est-ce que Jésus est bien le Messie? La controverse sur la capacité que le Messie aurait de pardonner les péchés ou non. Donc, toutes des épisodes comme ça où les gens s'approchaient de Jésus pour lui poser une colle. Vous voyez, une bonne question difficile à laquelle on se dit, ben, ça, il ne va jamais réussir à répondre. Il va sécher pendant 20 minutes, ou alors il va réussir à répondre, mais la réponse qu'il va nous donner va être tellement bizarre qu'on pourra tout de suite l'accuser et dire qu'il ne connaît rien ou dire qu'il n'est pas celui qu'il dit qu'il est. Et donc, c'est beaucoup d'épisodes comme ça dans lesquels on essayait un petit peu de tester Jésus, hein, de lui poser des questions bien difficiles pour le déstabiliser. Et dans ce texte-ci, ce sont les Sadducéens qui s'approche de Jésus pour lui poser une question avec, encore une fois, une intention de le piéger. Ce n'est pas les pharisiens cette fois-ci. La particularité des Sadducéens, c'est que les Sadducéens, c'est un groupe d'aristocrates, de gens qui ont beaucoup d'argent, qui vont bien. Et la particularité, c'est qu'ils sont très attachés à la loi de Moïse. La tradition, pour eux, ils n'en veulent pas. La tradition, on s'en fiche, c'est seulement la loi de Moïse. Donc, contrairement aux pharisiens, ils ne veulent pas de la tradition, ils s'en fichent, ils disent « nous, c'est la Bible et les Écritures, et puis c'est tout ». Et les Sadducéens, leur grande particularité, c'est qu'ils ne croient pas à la résurrection. Donc, ils ne croient pas que les morts ressuscitent, ils ne croient pas qu'il y a un monde à venir, et même, ils ne croient pas au monde spirituel. Ça veut dire qu'ils ne croient pas qu'il y a des anges, ils ne croient pas qu'il y a des démons, ils ne croient pas qu'il y a quelque chose derrière ce qu'on voit. Puisqu'ils ne croient pas à la résurrection, ils ne croient pas au jugement non plus. S'il n'y a pas de résurrection, on ne sera pas jugé à Acapulco, voilà. On meurt et on fait ce qu'on veut sur terre aussi. Et puis on meurt et on s'en va. Et voilà qu'ils veulent justement poser une question à Jésus. Alors la situation est très simple, vraiment très simple. C'est qu'il y avait une loi de Dieu à l'époque dans le peuple d'Israël qui voulait que lorsqu'un homme meurt sans avoir de descendance, son frère, son petit frère, le frère qui suit, épouse la femme et donne une descendance à son frère. Puisque à ce temps-là, c'était extrêmement important. Il faut que le nom de la personne reste. Et donc, il fallait trouver une solution pour perpétuer les descendances. Et alors, les Sadducéens viennent poser à Jésus une question en imaginant qu'il y ait 7 frères, et puis que les 7 frères meurent, et que la femme se marie avec les 7 frères. Imaginez une femme qui doit épouser Paul, et puis qui doit épouser Jacques, et puis la pauvre. On la plaint déjà. Mais c'est un peu ça. C'est les deux seuls frères qu'il y a ici. Mais c'est la même chose avec Patrick et Michel, quoi. Tina, elle serait partie pour se dire, allez, en avant. Bon, donc, c'est un peu ça la situation. Et voilà encore un bel exemple de l'attitude qu'il ne faut pas avoir quand on se présente devant Dieu. C'est que les Sadducéens s'approchent de Dieu avec un cœur sale. Ils ne voulaient pas en savoir plus sur la Bible. Ils ne voulaient pas en découvrir plus. Ils voulaient simplement lui tendre un piège. Simplement le tester, on va voir ce qu'il va répondre. On se demande bien s'il saura répondre à ça. Et ça, c'est vraiment, pour commencer, le premier exemple de l'attitude avec laquelle nous ne devons pas nous présenter devant Dieu. Une attitude sournoise, c'est ça le mot. Ils étaient un petit peu sournois. On va voir ce qu'il va répondre et tout ça. Ils avaient dans leur cœur une idée derrière la tête. Et d'ailleurs, après, les Sadducéens vont s'associer avec les pharisiens pour attraper Jésus et pour le faire tuer. Et donc, ils venaient pas là pour rien, ils venaient là pour essayer de le pousser dans ses retranchements jusqu'à ce qu'ils disent un truc complètement fou et qu'on dise, ben là, c'est bon, menottes et en avant. Et voilà un bon exemple, premièrement, de la manière dont il ne faut pas s'approcher de Dieu. La Bible dit, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Celui-là peut s'approcher de Dieu. Or, en général, nous nous approchons de Dieu, parfois nous aussi, avec déjà nos idées préconçues. Nous nous approchons de Dieu avec l'intention de se dire « J'espère qu'il va confirmer ce que je pense déjà. » Ou alors nous nous approchons de Dieu avec des idées derrière la tête, en nous imaginant qu'il ne les verra pas, qu'il ne se rendra pas compte, alors que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Premier exemple, s'approcher de Dieu avec un cœur impur, avec des petites choses cachées, sans sincérité, sans vérité, sans authenticité. Mais bien plus, Jésus va leur donner une réponse extraordinaire. Et c'est là que nous devons vraiment nous arrêter. C'est que Jésus, avant de répondre à leurs questions, leur dit « Les amis, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur, vous êtes très loin de la vérité. Vous vous trompez. Vous êtes complètement égarés. Vous êtes complètement à côté de la plaque, si on pourrait le dire comme ça. » Alors qu'ils pensaient mettre Jésus dans une situation embarrassante, c'est finalement eux qui sont mal à l'aise parce que Jésus leur dit « Mais les gars, c'est absolument pas ça. Hein, comme on dit, vous revenez de Pontoise ou quoi ? Vous êtes complètement à côté de la plaque. » Et Jésus, dans sa bonté, va leur indiquer la raison pour laquelle ils sont dans l'erreur. Il leur dit « Vous êtes dans l'erreur, premièrement parce que vous ne connaissez pas les Écritures, et vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. » Et encore une fois, nous retrouvons les deux mains de Dieu. Les Écritures et son esprit, sa puissance, mise en œuvre. Vous vous trompez, les amis. Premièrement, vous ne connaissez pas les Écritures. Les Sadducéens s'approchaient de Dieu avec cette assurance de se dire ce qu'on va lui dire va le bloquer. Ils se disaient, nous, on connaît la Bible. Et on sait bien que nulle part on ne parle de résurrection là-dedans. On le sait, on l'a lu du début jusqu'à la fin. Alors, Jésus ne pourra absolument pas se débrouiller avec ça. Il ne pourra pas nous démontrer bibliquement que la résurrection existe. Et Jésus va leur ouvrir les yeux sur un passage que certainement ils ont mal lu lorsqu'il est écrit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Mais si Abraham, Isaac et Jacob sont morts et que Dieu dit qu'il est leur Dieu, ça veut dire qu'ils sont vivants. Ça veut dire qu'ils sont appelés à l'éternité, si bien que Dieu se réclame être leur Dieu. Vous comprenez? Parce que si on appelait Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ben une fois qu'il serait mort, ben on ne saurait plus l'appeler. Donc, si Dieu a attaché son identité à ces personnes-là, c'est parce que c'était des personnes attachées à l'immortalité. Mais eux, les Sadducéens, étaient convaincus qu'ils connaissaient. On le sait, on a lu, on est absolument certain qu'il n'y a pas de résurrection. On va voir comment il va répondre. Les Sadducéens avaient l'impression de connaître les Écritures, mais en vérité, ils ne les connaissaient pas. Soit ils ne les connaissaient pas, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ce qui était écrit, ou alors ils ne connaissaient que des passages, que des petits passages, des petits versets. Ou alors, ils connaissaient des passages, mais pas dans la profondeur. Et très souvent aussi, c'est notre cas. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons de Dieu avec une connaissance des Écritures très superficielle. Je connais un petit verset par là, un petit verset de ce côté-ci, je sais bien que, je crois bien que, et j'ai l'impression qu'avec ça, je suis paré pour tout. Combien de fois est-ce qu'on rencontre pas des gens qui nous disent « Ouais, mais ce que vous faites là, c'est pas écrit dans la Bible ». Tu l'as lu du début jusqu'à la fin? Tu es sûr? Tu as bien analysé? Voilà un peu l'attitude dans laquelle ils se posent. Ils connaissent superficiellement les Écritures, premièrement. Deuxièmement, les Sadducéens s'approchent de Dieu, mais ils ne viennent pas, ou de Jésus, mais ils ne viennent pas pour en découvrir plus. Ils viennent pour se confronter, ils ne viennent pas pour apprendre. Ils ne viennent pas pour découvrir, ils ne viennent pas pour être enseignés, pour être instruits par Dieu. Et encore là, un bel exemple d'une attitude avec laquelle nous ne devons pas nous présenter devant Dieu, c'est que nous devons nous présenter devant Dieu avec cette sincère volonté de recevoir de lui, d'être instruits par lui, de découvrir de lui, d'accepter qu'il nous ouvre l'horizon, qu'il nous parle de choses que nous ne connaissons pas, qu'il nous ouvre l'intelligence. Et voilà ce que les Sadducéens ne voulaient pas faire. Ils étaient seulement attachés à ce qu'ils savaient déjà. Nous, on sait bien que ce n'est pas écrit. Mais évidemment, ils l'ont regretté parce qu'après, ils se sont rendus compte que Jésus connaissait bien évidemment mieux la Bible qu'eux et qu'eux, en fait, bah oui, ils connaissaient des bribes, ils connaissaient des morceaux, mais ils ne savaient pas entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Ils avaient un esprit petit, un esprit tout petit, un esprit attaché à seulement ce que je sais déjà, seulement ce que j'ai déjà vu, seulement ce que j'ai déjà connu, seulement ce que j'ai déjà comme avis. Et tout ce qui sort de ça, oh non, 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 moi, cette petitesse d'esprit qui les caractérisait. Et nous aussi, nous sommes comme ça, parfois. Nous avons nos certitudes, nous sommes sûrs, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et si c'est autrement, mais c'est impossible que ce soit autrement. Ils venaient avec une attitude de suffisance devant Jésus. Devant un maître, ils venaient poser une question en espérant que de toute façon, le maître serait bloqué et qu'il devrait répondre comme eux, ils le pensent. Ils avaient des idées préconçues devant Dieu et ils ne voulaient pas les changer. Ils ne voulaient pas s'ouvrir à l'enseignement de Dieu. Or, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être des personnes, quand nous nous approchons devant lui, désireuses de recevoir. Pas désireuse de prouver, pas désireuse d'approcher, pas sûre des petites choses qu'ils ont apprises dans le passé, mais des personnes volontairement, profondément désireuses de recevoir ce qu'il veut donner. Peut-être que vous avez déjà parlé avec Gino, et si vous l'écoutez bien, quand il parle, et puis parfois il dit, je dis ça, mais peut-être que je me trompe. Et puis il continue à parler, oui je dis ça, mais peut-être je me trompe. Ça, c'est un bon exemple. Oui, je dis ça, mais peut-être que je me trompe. Et très souvent, mais nous ne sommes pas comme ça. Je dis ça, et comme c'est comme ça, ben, comme je le dis, ben, c'est que c'est vrai. Et c'est un peu comme ça que les Sadducéens s'approchaient devant Jésus, en ayant la certitude que, ben, de toute façon, comment Jésus pourrait-il dire autre chose que ce que je pense déjà. Nous avons besoin d'avoir cette ouverture, ce désir de l'apprentissage. Le disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Ce n'est pas quelqu'un qui vient donner des leçons au maître. Dans les écoles de théologie, c'est souvent comme ça. Parce que dans les écoles de théologie, c'est des gens qui, très souvent, ont déjà servi dans l'église, qui prêchent et machin et machin. Et puis on leur dit, ben maintenant, il faut aller à l'école. Hein. Faut aller, Et puis quand ils arrivent à l'école, ils expliquent au professeur. Parce que comme ils ont déjà lu la Bible, ils disent, non, mais c'est pas comme ça, monsieur. Alors on leur dit, non, t'es pas venu pour donner cours au prof. Et voilà ce qu'il voulait faire, venir donner cours au prof. Première chose, approchons-nous de Dieu avec un esprit d'apprentissage, avec un désir de découvrir, d'accepter qu'il nous ouvre les horizons, qu'il casse les barrières de nos esprits et qu'il nous fasse en apprendre plus. Deuxièmement, les Sadducéens s'approchent devant Dieu, ou devant Jésus, pardon, mais ils lui posent une fausse question. L'histoire de la femme qui perd ses des 7 frères qui meurent, c'est une fausse question. C'est une situation complètement hypothétique, ça n'existe pas ça. Qui a déjà vu ça, 7 frères qui meurent à la suite? Bon, oui, c'est peut-être arrivé une fois sur l'univers, mais voilà qu'ils s'approchent de Jésus et pour le confondre, ils inventent une fausse question, une question complètement illusoire, complètement abstraite, pour le détourner de la vérité ou pour essayer de le tromper. Voilà encore un exemple de ce qu'il ne faut pas faire si nous voulons comprendre les œuvres de Dieu, si nous voulons nous approcher de Dieu. Nous ne devons pas nous réfugier derrière des fausses questions. Nous ne devons pas nous réfugier derrière des questions complètement inutiles. C'est une fausse question parce que il n'existe pas d'assurance contre les météorites. Bon, on appelle ça une calamité peut-être, je ne sais pas. Mais bon, on peut pas commencer à imaginer qu'une météorite va tomber sur l'église de Jumet à midi, voilà. Et imaginons qu'une météorite tombe alors qu'on est tous là dans la salle. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on indemnise? Ça, bon, on ne peut pas tout prévoir, quoi. Mais donc, c'est complètement une fausse question. Et très souvent, nous aussi, nous avons cette tendance, nous nous approchons de Dieu, et comme nous ne voulons pas faire face, comme nous ne voulons pas apprendre, comme nous ne voulons pas recevoir, nous nous cachons derrière des fausses questions complètement inutiles. Tout le monde s'en fiche. Ça n'apportera rien à la vie de personne. Ça ne va changer la vie à personne. ça ne va pas changer ta foi, ça ne va pas te faire avancer, mais moi je suis derrière ma fausse question. Ah, ça c'est ma petite question. Et à chaque fois que quelqu'un vient, je lance ma question pour essayer de troubler tout le monde en se disant, oula, ils vont être perdus, là, ils ne sauront pas quoi répondre. Voilà encore un exemple. Approchons-nous de Dieu et cherchons l'essentiel. Approchons-nous de Dieu et je ne parle pas des détails. Les détails sont importants. Hein, les détails, il faut pouvoir en parler. Les chaises, c'est un détail dans l'église. Ben bon, si on a des chaises avec des picots, on ne passera pas des bons cultes. Mais la fausse question, ce n'est pas ça. La fausse question, c'est un truc dont tout le monde se fiche. Approchons-nous de Dieu avec des vraies questions. Des vraies questions. Comment allons-nous faire pour étendre le royaume de Dieu? Comment allons-nous faire pour aimer plus nos frères et sœurs? Comment allons-nous faire pour prendre soin plus les uns des autres? Comment allons-nous faire pour soutenir ceux qui sont faibles? Comment allons-nous faire pour aider les pauvres dans la rue? Ça, ce sont des vraies questions. Mais non, les pharisiens, les sadducéens, ils avaient toujours un truc. On est tous là en train de se dire, mais d'où est-ce qu'il sort avec ces questions? Il y a toujours quelqu'un comme ça dans une église. Hein. Je ne sais pas qui c'est. Je ne l'ai pas encore repéré. Mais c'est toujours à la réunion d'assemblée qu'il débarque. Bon, soit. Bon. Non, mais c'est sérieux, j'ai encore repéré personne comme ça. Mais il doit y en avoir un qui va se révéler un beau jour, l'Antichrist. Bon, ça. Faisons attention de ne pas nous réfugier derrière des fausses questions. Ils avaient l'impression de bien connaître la Bible, mais ils ne la connaissaient pas. Et ils ne savaient pas qu'il y a une différence entre lire dans la Bible et lire la Bible. Ça aussi, c'est important. Il y a une différence entre lire un verset dans la Bible et lire ce que la Bible dit. Si vous parlez d'un sujet, la foi par exemple, vous ne pouvez pas dire, ah ben oui, en Matthieu 17, il est écrit que la foi, c'est se détourner du péché. Oui, d'accord, mais il n'y a pas que Matthieu 17 qui parle de la foi. Il y a aussi Genèse 22, il y a aussi Exode 24, et c'est tous ces versets-là qu'il faut mettre ensemble pour avoir une vérité sur la foi. Raison pour laquelle les gens écrivent des manuels dans lesquels on peut lire avec un index, foi, sainteté, machin, pour retrouver et avoir une cohérence. Eux, non, ils avaient leur petit verset. Moi, je sais bien, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça et je ne changerai pas. Voilà. Écoutons pour recevoir. Écoutons comme des disciples. Ésaïe 50, versets 4 à 5 dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme les disciples. » Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme les disciples. Et il y a une manière d'écouter des disciples. As-tu cette manière d'écouter du disciple? Es-tu ce disciple qui écoute pour recevoir, pour apprendre, pour avancer? Où es-tu ce disciple qui écoute pour contester, pour être contre, pour ne pas être d'accord? Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et cette attitude que Dieu nous recommande pour nous approcher devant lui, c'est une attitude de disponibilité. Dieu veut que nous nous approchions de lui avec une ouverture, de vouloir dire, « Seigneur, fais-moi découvrir, je vais écouter comme un disciple, mais aussi... » Dieu nous appelle à nous approcher devant lui en étant disponible, en disant « Seigneur, me voici, me voici ». Nous le chantons souvent, et dans le chant que Gino nous avait fait écouter, « Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes, me voici ». Et dans beaucoup de chants, ça se retrouve, parce que c'est une parole que beaucoup de gens de la Bible ont dit. Samuel, le petit, le jeune Samuel, lorsque une voix l'appelait, rappelez-vous quand il était dans le temple avec son grand prêtre Élie, et qu'une voix l'appelait, à chaque fois il répondait « Me voici ». Et après il allait voir Élie qui lui disait « Mais non, c'est pas moi, va te recoucher ». Mais voilà son attitude. Dieu utilise ces gens-là, ces enfants-là, ces jeunes gens qui sont prêts à dire « Oui, me voici Seigneur, me voici pour faire ta volonté ». Et ensuite quand Dieu va lui parler, il va dire « Seigneur, parle car ton serviteur écoute ». Ça, c'est vraiment la marque de quelqu'un de disponible. « Parle, vas-y, je suis là, je suis prêt, explique-moi ». La plupart du temps, ça arrive plutôt quand une femme téléphone à une autre en lui disant « J'ai un scoop terrible à te raconter. Quand tu vas entendre ça, tu vas tomber par terre, tu vas tomber à la renverse. Tu vas voir, j'arrive, je prends ma voiture. » Elle est là, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Elle arrive et puis elle se dit, elle ouvre la porte, elle ne s'assied pas, elle ne va pas faire pipi, rien du tout. Elle s'assied, parle, vas-y, je t'écoute, explique-moi. C'est souvent ce moment-là. Je dis, ça peut être un homme, hein, mais bon. Ce n'est pas les hommes qui font ça, on le sait tous ici. Bon. Mais voilà, cette disponibilité qu'avait Samuel, c'est ces gens-là que Dieu utilise. C'est ces gens-là qui peuvent comprendre les messages de Dieu, qui peuvent être auprès de Dieu. Les gens qui sont là, Seigneur, me voici. Samuel l'a dit. Abraham l'a dit, lorsque Dieu l'a appelé des cieux, lorsque Abraham était en train de lever le couteau sur son fils qui était Isaac, qui était accroché, et qu'une voix l'appelle des cieux pour lui dire « Non, non, vas-y, ne le fais pas », Abraham, il dit, et puis « Oui, me voici ». Ça, c'était le réflexe des gens de la Bible. « Me voici, je suis là, je suis disponible, Seigneur, envoie-moi ». Jacob aussi, à Peniel, va dire « Me voici », lorsqu'il est dans tout seul et qu'il se fait frapper par un ange qui est Dieu et machin. Il dit aussi « Me voici », quand on l'appelle par son nom, « Me voici ». Moïse, dans le buisson ardent, quand il arrive près du buisson et qu'il se demande « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça pour un buisson qui brûle et qui ne s'éteint pas ?» Dieu l'appelle, il répond « Me voici ». Et Jésus aussi, dans Hébreux 2, il est écrit « Et encore, je me confierai en toi, me voici », c'est Jésus qui parle, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés ». Donc c'est Jésus qui parle dans la bouche de l'apôtre Paul, de l'écrivain du livre d'Hébreux. « Me voici ». Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui capable de changer sa manière de s'approcher de Dieu et d'être quelqu'un qui peut dire « Me voici ».« Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, pour t'écouter. Me voici, Seigneur, pour écouter ce que tu as à me dire. » Le psaume 123, verset 2, nous dit « Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur les mains de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Non seulement disponible, mais en plus s'attendre à Dieu. Je regarde Dieu, je le cherche dans ce que j'entends, dans ce qu'on me dit au téléphone, dans ce que je vois à l'église, dans ce que je vois dans la rue. Où est-ce que Dieu m'appelle? Où est-ce que Dieu me cherche? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Cette disponibilité, cette recherche de la présence de Dieu, ces gens disponibles, ce sont ces gens-là que Dieu utilise. Habacuc 2, verset 1, il dit encore mieux, il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais, j'étais là, j'étais à mon poste et j'attendais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Comme Hélène, elle est à son poste. Elle est là, elle est présente, elle est au bon endroit et elle attend. Nous aussi, nous sommes appelés à être comme Hélène, à notre poste, attendant ce que Dieu nous dira. Être disponible pour son service. Ésaïe 6, verset 8 dit « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Me voici, envoie-moi. Puissions-nous aussi ce matin, nous aussi être ces personnes qui disent « Seigneur, envoie-moi. » Et même Marie aussi. Quand on vient lui annoncer la bonne nouvelle, les mamans savent, parce que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle d'avoir un fils qui sera le prophète et qui va se faire tuer Je ne sais pas. Moi, je trouve que ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça. Et après, quand il est sur la croix, il lui dit « Non, tu n'es pas ma mère. Allez, Jean, voici ta mère. » Eh bien, c'est mon fils. Hein, voilà. Donc, quand on vient lui annoncer cette nouvelle-là, elle répond. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Elle accepte la volonté de Dieu, elle est disponible, elle est là. « Seigneur, c'est ce que tu veux ?» Ben d'accord, ça va, on va suivre ta volonté. Premièrement, il ne connaissait pas les Écritures. Deuxièmement, il ne connaissait pas la puissance de Dieu, les Sadducéens en question ici. Il ne connaissait pas la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il ne croyait pas à la résurrection aussi. Non seulement parce qu'il ne le lisait pas dans les Écritures, mais aussi parce qu'il ne connaissait pas la puissance de Dieu. Il n'imaginait pas que Dieu puisse être capable de ressusciter un mort par son Esprit. Il se disait, mais attendez, on dit qu'ils étaient sceptiques. Vous connaissez les sceptiques? Ils étaient sceptiques. Ouais, mais, oh, il est mort. il est dans sa boîte. Alors, Dieu va le ressusciter et faire un nouvel être humain, c'est possible ça. C'était des gens qui ne connaissaient pas les Écritures, mais qui connaissaient très peu la puissance de Dieu. Ils avaient un faible aperçu de tout ce que Dieu peut faire. Est-ce que ce n'est pas aussi notre cas? Est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas parfois ces Sadducéens qui ne connaissent pas beaucoup les Écritures, mais qui ne connaissent pas beaucoup non plus la puissance de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas ces sceptiques-là qui se disent « la résurrection, c'est pas moi hein. ». Je vous avais dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans les églises, on a un mépris pour le surnaturel. Si quelqu'un vient dire « Cette nuit, un ange m'a réveillé pour me dire un message », on va tous lui rigoler au visage, on va être plié en quatre. Un ange l'a réveillé pour lui dire « Aïe, 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 ça y est, encore l'illuminé de service ». C'est ça les Sadducéens. Mais non, les anges, il n'y a pas, les démons, il n'y a pas, il n'y a rien du tout. Il n'y a que la terre et le parquet, et puis c'est tout. Ils ne connaissaient pas la puissance de Dieu. Ils étaient fermés à tout ce qui relève de plus que ma puissance, plus que ma force. Et d'ailleurs, quand ils parlent de l'éternité, vous voyez qu'ils ramènent tout à une histoire de frères. Donc, quand ils parlent du monde à venir, ils ramènent tout à se dire, ben oui, mais finalement, elle sera la femme de qui ? Jésus leur dit en passant que ben, au ciel, on ne se marie pas. Au ciel, on ne se marie pas parce qu'on est comblé d'amour. On n'a pas besoin que quelqu'un nous aime, on n'a pas besoin que quelqu'un nous prenne soin, on n'a pas besoin de tout ça au ciel. Myriam, Gino, c'est maintenant. Vas-y, à fond, donne tout ce que tu as parce que une fois que l'heure aura sonné, il n'y a plus, c'est fini. Je me rappelle d'un frère, il était gentil, ce frère. Enfin, il est gentil. Il appelait toujours sa femme « ma petite pantoufle ». C'était comme ça qu'il l'appelait. Et alors un jour, on parlait de ça, on dit, ben oui, ben au ciel, on ne se mariera plus. Quoi ? Et ma petite pantoufle, qu'est-ce que je vais faire ? Mais voilà aussi la puissance de Dieu. Nous devons la connaître. Il ne s'imaginait pas les ressources de Dieu, les ressources inépuisables de sa grâce, tout ce que Dieu peut faire. Et nous aussi, parfois, nous sommes comme ça, avouons-le. Moi aussi, je suis comme ça. Nous sommes un petit peu sadducéens sur les bords, parfois un peu beaucoup. Quand on parle des démons, il y en a même qui disent « Oui, mais ça c'était avant, il n'y en a plus maintenant. » Les anges, oui, dans l'Ancien Testament, il y en avait peut-être, mais maintenant, on ne sait pas. Ça, c'est les sadducéens. Et parfois, Jésus associe cette faible connaissance de la puissance de Dieu à une toute petite foi aussi. Parfois, notre foi est toute petite. Les disciples avaient une petite foi, donc on n'est pas les seuls. Jésus va leur reprocher à plusieurs reprises leur petite foi. Il va leur dire, Matthieu 6, verset 30, qu'ils avaient une petite foi parce qu'ils avaient du mal à imaginer que Dieu puisse pourvoir à leurs besoins. Matthieu 6, vous vous rappelez, si Dieu peut s'occuper des moineaux qui sont dans les cieux, il peut aussi s'occuper de vous. Parfois, nous avons du mal. Donc, Dieu va pourvoir à mes besoins. Oh là là, mais je n'ai pas d'argent et je ne sais pas. Nous avons parfois une petite foi pour nous imaginer sa providence, sa présence, son soutien pour nous donner ce dont nous avons besoin. Il va leur reprocher leur petite foi concernant ça. Il va aussi reprocher leur petite foi lorsqu'ils seront dans la barque et que la tempête va se mettre à aller. Il va leur dire, mais vous avez une petite foi, une toute petite foi, toute petite comme ça. Je suis là, je suis dans le bateau, je pique un petit somme, il y a un petit peu de vent, ça y est, ils sont stressés. Petite foi. Matthieu 14, verset 31, Jésus va reprocher à Pierre sa petite foi. Rappelez-vous quand Jésus marche sur les eaux. Il y en a ici, vous n'y croyez même pas. Non, vous êtes sceptique. Bon, soit, c'était une blague. Bon, mais voilà. Jésus marche sur les eaux, et puis il dit à Pierre, ben, vas-y, rejoins-moi. Et Pierre essaye les premiers mètres, et à un moment donné, il sent que voilà, ça cale. Et il se met à tomber dans l'eau. Jésus lui dit, mais t'as une petite foi, toute petite. Hein. C'est une petite foi, quoi. Et la foi, crois en moi. Parfois, nous ignorons aussi la puissance de Dieu parce que nous avons une petite foi. C'est pour ça qu'ils ont dit à Jésus, augmente notre foi. Faisons cette prière souvent. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Pour que je croie à ta puissance, pour que je croie que tu peux. Matthieu 16, verset 8, Jésus va leur reprocher leur petite foi quant à sa capacité de multiplier les pains. Et Jésus va leur dire, mais vous ne comprenez toujours pas. Si vous lisez, il leur pose plusieurs fois la question, mais vous n'avez toujours pas compris. Donc en fait, Jésus a multiplié les pains, mais les disciples n'ont pas tout de suite tilté qu'il s'est passé un miracle là. Une petite foi. Avoir une petite foi nous empêche de voir et de comprendre les messages de Dieu. Nous ne sommes pas au diapason avec ses plans. Jésus associe nos difficultés de comprendre ce qu'il fait, ses œuvres, et ce qu'il dit, sa parole, à une faiblesse de notre foi et à une faiblesse de notre connaissance des Écritures. Encore une fois, les deux mains de Dieu, la parole et l'Esprit. Nous avons besoin d'avoir une bonne relation avec la parole de Dieu et une bonne relation avec l'Esprit. Si nous voulons comprendre ses œuvres, ça veut dire quoi ? Comprendre ce que Dieu fait dans ma vie, comprendre ce qu'il provoque dans ma vie, les détresses, les souffrances, mais aussi les réussites, comprendre ce que Dieu fait dans l'Église, comprendre ce que Dieu fait dans le monde. Les messages de Dieu, comprendre ce que Dieu veut me dire aujourd'hui à la prédication, comprendre ce que Dieu va me dire après quand je vais discuter avec un frère, comprendre ce que Dieu veut me dire quand je vais avoir un accident dans 2 semaines, comprendre les messages de Dieu ou dans la vie de tous les jours. Si nous avons une petite foi et si nous avons une petite connaissance des Écritures, nous ne comprendrons jamais. Nous serons toujours là en train de nous dire mais qu'est-ce qui se passe là ? Moi, j'avais un prof qui arrivait, il arrivait en classe, il était tellement perdu. Mais je suis où, moi, ici ? En 4e, en 5e, en 6e ? Bon, voilà. Benoît est un peu comme ça, je pense, aussi. D'ailleurs, il ne sait jamais où il est. Donc, on doit lui sonner, Benoît, t'es où ? Oui, mais dépêche-toi, parce que, bon. Il n'y a que le dimanche, son GPS intérieur sait bien où il doit aller. Mais les autres jours... Il vogue sur la mer et les océans avec son chapeau. Bon, ça. Et les proverbes déjà disaient, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur ton cerveau. Viens devant Dieu, disponible, désirant savoir, croyant, avec foi, avec puissance. Le disciple s'approche premièrement, nous clôturons, s'approche devant Dieu avec un cœur pur, avec des bonnes intentions. Deuxièmement, le disciple s'approche pour apprendre de Dieu. Il veut découvrir, il veut savoir, il veut en savoir plus. Il ne vient pas pour contester, il ne vient pas pour embêter son monde, pour poser des fausses questions, il vient pour apprendre, pour découvrir quand il s'approche devant Dieu. Le disciple est disponible, il est là, il est prêt à entendre que Dieu lui dit oui, où, comment, pourquoi. Quatrièmement, le disciple est prêt à ouvrir ses conceptions, à sortir de ce qu'il pensait. Peut-être que je me trompe. Je dis ça, mais peut-être que je me trompe. Il est capable de faire ça, le disciple. Le disciple est capable de s'attendre à lui. Et il est capable de croire en sa puissance et en sa toute puissance, avoir la foi. Donc, le disciple peut s'attendre à lui. Et sur ce point-là, je voudrais vous donner deux petits défis. Deux petits défis. S'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu. Et c'est les défis que Eric a mentionnés. Deux petits défis. Comme je m'attends à Dieu, comme je m'attends à sa présence, comme je m'attends à son action, comme je m'attends à son réconfort. Premièrement, j'arrête de me plaindre de tout ce pour quoi je suis en train de prier. Toutes les choses pour lesquelles je suis en train de prier, je ne m'en plains plus. Si je suis en train de prier parce que il y a une fuite d'eau dans ma salle de bain, imaginons, c'est ridicule, mais quand je rentre dans la salle de bain et que mes pieds sont mouillés, je ne dis rien. Je ne me plains pas parce que je m'attends au secours de Dieu. Ça peut être dans d'autres choses. Si je suis en train de prier pour que mon voisin soit plus gentil, tant qu'il n'est pas plus gentil, je prie. Je m'attends à Dieu, je ne me plains pas. Deuxièmement, j'arrête de m'inquiéter de tout ce pourquoi je suis en train de prier. tous les sujets pour lesquels je suis en train de prier, toutes les choses pour lesquelles je suis en train de m'attendre à Dieu, je ne m'en inquiète plus. Alors c'est très difficile ça. C'est un défi. Mais c'est Jésus qui dit ne vous inquiétez de rien. Donc on peut lui faire confiance. Il n'est pas inconscient. Je ne me plains pas de ce pourquoi je prie et je ne m'inquiète pas de ce pourquoi je suis en train de prier parce que je m'attends à lui. Je ne prie pas dans le vide. Je ne prie pas à un Dieu qui n'entend pas. Je prie à un Dieu qui m'entend, qui me reçoit. Éphésiens 3, 20 à 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, j'ai préparé le résumé pour la parole et l'esprit. Il y a deux tableaux. Ceux qui le veulent, à la fin, il y a des copies pour ceux qui veulent lire les versets et en apprendre plus. Voilà, bénédiction Jésus.